Audiolib présente Le voyage d'hiver d'Amélie Nothomb. Lu par Thibaut de Montalembert. Dans les aéroports, quand je passe à la fouille, je m'énerve, comme tout le monde. Il n'est jamais arrivé que je ne déclenche pas le fameux bip. Du coup, j'ai toujours droit au grand jeu. Des mains d'hommes me palpent de la tête aux pieds. Un jour, je n'ai pas pu m'empêcher de leur dire « Vous croyez vraiment que je veux faire exploser l'avion ?» Mauvaise idée. Ils m'ont forcé à me déshabiller. Ces gens n'ont pas d'humour. Aujourd'hui, je passe à la fouille et je m'énerve. Je sais que je vais déclencher le fameux bip et que des mains d'hommes vont me palper de la tête aux pieds. Or, je vais vraiment faire exploser l'avion de 13h30. J'ai choisi un vol au départ de Roissy-Charles de Gaulle plutôt que d'Orly. J'avais pour cela les meilleures raisons. L'aéroport de Roissy est autrement beau et agréable. Les destinations sont plus variées et lointaines. Les magasins hors taxes offrent davantage de possibilités. Mais le motif principal, c'est qu'aux toilettes d'Orly, il y a des dames pipi. Le problème n'est pas de les payer. On a toujours une pièce qui traîne au fond d'une poche. Ce que je ne supporte pas, c'est de rencontrer la personne qui va nettoyer mes traces. C'est humiliant pour elle et pour moi. Je ne crois pas exagérer d'affirmer que je suis un délicat. Or, je risque d'aller beaucoup aux toilettes aujourd'hui. C'est la première fois que je m'apprête à faire exploser un avion. C'est aussi la dernière fois puisque je serai à bord. J'ai eu beau réfléchir à des solutions plus avantageuses pour moi, je n'en ai pas trouvé. Quand on est un citoyen lambda, un tel acte implique nécessairement le suicide. Ou alors il faut appartenir à un réseau organisé, ce qui n'est pas de mon goût. Je n'ai pas l'âme d'un collaborateur. Je n'ai pas l'esprit d'équipe. Je n'ai rien contre l'espèce humaine, j'ai de l'inclination pour l'amitié et l'amour, mais je ne conçois l'action que solitaire. Comment voulez-vous accomplir de grandes choses avec quelqu'un dans les pattes? Il y a des cas où l'on ne doit compter que sur soi-même. On ne peut être qualifié de ponctuel lorsque l'on arrive trop tôt. J'appartiens à cette espèce. J'ai si peur du retard que j'ai immanquablement une avance considérable. Aujourd'hui, je pulvérise mon propre record. Au moment de me présenter à l'enregistrement, il est 8h30. La demoiselle me propose une place sur l'avion d'avant. Je refuse. 5 heures d'attente ne seront pas de trop puisque j'ai emporté ce carnet et ce stylo. Moi, qui jusqu'à la quarantaine avais réussi à éviter le déshonneur de l'écriture, je découvre que l'activité criminelle entraîne le besoin d'écrire. Ce n'est pas grave puisque mes scribouillages exploseront avec moi dans le crash aérien. Je n'en serai pas réduit à proposer la lecture de mon manuscrit à un éditeur en sollicitant son opinion d'un air faussement détaché. À la fouille, j'ai déclenché le bip. Pour la première fois, j'ai ri. Comme prévu, des mains d'hommes m'ont palpé de la tête aux pieds. Mon hilarité leur a semblé suspecte. J'ai dit que j'étais chatouilleux. Quand ils ont passé le contenu de mon sac au peigne fin, j'ai mordu l'intérieur de mes joues pour ne pas rigoler. Je ne possédais pas encore ce qui allait me servir à commettre le crime. Ensuite, dans une boutique hors taxe, j'ai acheté le matériel. Il est à présent 9h30. J'ai 4 heures devant moi pour assouvir ce curieux besoin, écrire ce qui n'aura pas le temps d'être lu. Il paraît qu'à l'instant de mourir, on voit défiler sa vie entière en une seconde. Je saurai bientôt si c'est vrai. Cette perspective me plaît. Je n'aimerais pour rien au monde manquer le best-of de mon histoire. Si j'écris, c'est peut-être pour préparer le travail du monteur qui sélectionnera les images, lui rappeler les meilleurs moments, suggérer de laisser dans l'ombre ceux qui m'auront moins importé. Si j'écris, c'est aussi de peur que ce fulgurant film n'existe pas. Il n'est pas exclu que ce soit un bobard et qu'on meure stupidement, sans rien voir du tout. L'idée de m'anéantir sans cette transe récapitulative me désolerait. Par précaution, je vais essayer de m'offrir ce clip par l'écriture. Ça me rappelle ma nièce, Alicia, 14 ans. Cette gosse est installée devant MTV depuis sa naissance. Je lui ai dit que si elle mourait, elle verrait défiler un vidéoclip qui commencerait par « Take That » et se terminerait par « Coldplay ». Elle a souri. Sa mère m'a demandé pourquoi j'agressais sa fille. Si taquiner une adolescente revient à l'agresser, j'ose à peine imaginer quel verbe ma belle-sœur emploiera quand elle apprendra mon rôle dans l'affaire du Boeing 747. Bien évidemment, j'y pense. Les attentats n'existent que pour le « qu'en dira-t-on » et pour les médias, ce commérage à échelle planétaire. On ne détourne pas un avion pour le plaisir, mais pour occuper la une. Supprimer les médias et tous les terroristes se retrouveront au chômage. Ce n'est pas de mal la veille. Je songe que dès 14h, mettons 14h30, vu les sempiternels retards, mes agents s'appelleront CNN, AFP, etc. La tête de ma belle-sœur ce soir devant le 20h. Je te l'avais bien dit que ton frère était un malade. J'en suis assez fier. Grâce à moi, Alicia regardera une autre chaîne que MTV pour la première fois de sa vie. On m'en voudra quand même. Il n'est pas absurde que je m'offre dès maintenant le plaisir d'imaginer la scène. Je ne serai plus là pour savourer l'indignation que j'aurais provoquée. Pour apprécier de son vivant une réputation posthume, rien de tel que de l'anticiper par écrit. Les réactions de mes parents. « J'ai toujours su que mon deuxième fils était spécial. Il tient ça de moi, » dira mon père. « Quand ma mère sera déjà en train d'inventer d'authentiques souvenirs préfigurant mon destin, quand il avait 8 ans, il construisait des avions en Lego puis les jetait sur son ranch miniature. » Ma sœur, pour sa part, racontera avec attendrissement des souvenirs réels, mais dont on cherchera en vain le rapport avec l'affaire. Il contemplait longtemps les bonbons dans sa main avant de les manger. Mon frère, si sa femme le laisse parler, dira qu'avec le prénom que je portais, il fallait s'y attendre. Et cette aberration ne sera pas sans fondement. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, mes parents, persuadés que j'étais une fille, m'avaient baptisé Zoé. Un si joli prénom, et qui signifie « la vie », proclamait-il, « et qui rime avec ton prénom », disait-il à Chloé, conquise par sa future petite sœur. Ils étaient déjà tellement comblés par le sérieux d'Éric, leur aîné, qu'un deuxième fils leur paraissait superflu. Zoé ne pouvait être que le doublon de l'exquise Chloé, la même en réduction. Je naquis avec un démenti entre les jambes. Ils s'en accommodèrent avec bonne humeur, mais ils tenaient tellement au prénom de Zoé qu'ils cherchèrent à tout prix un équivalent masculin. Dans une encyclopédie vétuste, ils trouvèrent Zoïl et me l'attribuèrent sans même s'intéresser à la signification de ce qui me condamnerait à être un apax. J'ai appris par cœur les 6 lignes consacrées à Zoïl dans le Robert des noms propres. Zoïl, en grec Zoïlos, sophiste grec, Amphipolis ou Éphèse, 4e siècle. Fameux surtout pour sa critique passionnée et mesquine contre Homère. Il fut surnommé Homéromastix, le fléau d'Homère. C'était, dit-on, le titre de son ouvrage où il essayait de prouver, au nom du bon sens, l'absurdité du merveilleux homérique. Il paraît que ce nom était entré dans la langue courante. Ainsi, Goethe avait assez conscience de son génie pour qualifier de zoallois les critiques qui le vilipendaient. Dans une encyclopédie de philologie, j'ai même appris que Zoïl serait mort lapidé par une foule de braves gens écœurés par ses propos sur l'Odyssée. Époque héroïque où les amateurs d'une œuvre littéraire n'hésitaient pas à zigouiller le critique imbuvable. Bref, Zoïl était un crétin odieux et ridicule. Ce qui explique que personne n'ait jamais appelé son enfant de ce prénom à la sonorité bizarre. Sauf mes parents, bien sûr. À 12 ans, quand je découvris ma funeste homonymie, j'allais demander des comptes à mon père qui s'en tira avec des « plus personne ne sait cela ». Ma mère fit plus fort encore. « N'écoute pas ces racontars. Maman, c'est dans le dictionnaire. » « S'il fallait croire tout ce qui est dans le dictionnaire, il le faut, » dis-je d'un ton de commandeur. Elle choisit aussitôt une autre argumentation plus retorse et calamiteuse. « Il n'avait pas tort, reconnaît que dans l'Iliade, il y a des longueurs. » Impossible de lui faire avouer qu'elle ne l'avait pas lu. Tant qu'à me donner le nom d'un sophiste, je n'aurais rien eu contre Gorgias, Protagoras ou Zénon, dont les intelligences n'ont pas fini d'intriguer. Mais s'appeler comme le plus stupide et le plus méprisable d'entre eux ne prédisposait pas à un noble avenir. À 15 ans, je pris le taureau par les cornes, autant devancer mon destin, j'allais retraduire Homère. En novembre, il y avait 1 semaine de vacances scolaires. Mes parents possédaient au fin fond de la forêt une cambuse sans prestige où nous allions parfois nous mettre au vert. Je leur en demandais les clés. « Que vas-tu faire là-bas tout seul ?» interrogea mon père. « Traduire l'Iliade et l'Odyssée. »
Il en existe déjà d'excellentes traductions.
Je sais, mais quand on traduit soi-même un texte, il se crée entre lui et soi un lien bien plus fort que par la lecture.
Comptes-tu réfuter ton célèbre homonyme ?
Je l'ignore. Avant d'en juger, il faut que je connaisse intimement cette œuvre. J'effectuais le trajet en train jusqu'au village, puis à pied jusqu'à la maison, une marche d'une dizaine de kilomètres. Dans mon sac à dos, je sentais avec exaltation le poids du vieux dictionnaire et des deux livres illustres. J'arrivais tard le vendredi soir. L'intérieur de la bicoque était glacial. Je fis un feu dans la cheminée et me blottis près de l'âtre dans un fauteuil que je jonchais de couverture. Le froid m'anesthésia au point que je m'endormis. Je m'éveillai là, stupéfait, au petit matin. Les braises rougeoyaient dans l'obscurité. À l'idée de ce qui m'attendait, je fus foudroyé d'exaltation. J'avais 15 ans, et pendant 9 jours d'absolue solitude, j'allais pénétrer de toute ma force l'œuvre la plus vénérable de l'histoire. J'ajoutai une bûche dans la cheminée et me préparai du café. Au coin du feu, j'installai une tablette avec le dictionnaire et les livres. Je m'assis, muni d'un cahier vierge, et me lançai dans la colère d'Achille. De temps en temps, je levais le nez du texte pour m'extasier de l'instant. « Sois conscient de l'immensité de ce qui t'arrive », me répétais-je. Je ne cessais d'en avoir conscience. Ma surexcitation survécut à l'écoulement des jours. La résistance du grec renouvelait ad libitum la sensation d'une conquête amoureuse de premier ordre. Souvent, je m'apercevais que je traduisais infiniment mieux au moment où j'écrivais. L'écriture, supposant un passage de la pensée par un tronçon de corps, que j'imaginais constitué du cou, de l'épaule et du bras droit, je décidais d'enrichir mon cerveau de mon corps entier. Quand un vers me dérobait sa signification, je le scandais au rythme de mes pieds, de mes genoux et de ma main gauche. Ne s'ensuivait aucun résultat. Je chantonnais alors et élevais la voix. Aucun résultat. De guerre lasse, j'allais soulager un besoin aux toilettes. De retour, le vers se traduisait tout seul. La première fois, j'écarquillais les yeux. Fallait-il faire pipi pour comprendre ? Combien de litres d'eau devrais-je boire pour traduire de tels pavés ? Puis, je réalisais que la miction n'y était pour rien. Ce qui avait fonctionné, c'était les quelques pas pour me rendre au cabinet. J'avais appelé mes jambes à la rescousse. Encore fallait-il les activer pour trouver la solution. L'expression « ça marche » n'a sans doute pas d'autre explication. Je pris l'habitude de me promener dans la forêt à la tombée du soir. Les grandes ombres des arbres et l'air glacial me réjouissaient. J'avais l'impression d'affronter un environnement hostile et démesuré. Péripatéticien de la version, je sentais que l'exercice donnait à mon cerveau la force qui lui manquait. À la maison, je comblais les blancs du texte. Les 9 jours ne suffirent pas même à traduire la moitié de l'Iliade. Ce fut cependant avec un sentiment de triomphe que je regagnais la ville. J'avais vécu une idylle sublime qui me liait à Homère pour toujours. 25 années se sont écoulées depuis, et force est de constater que je suis devenu incapable de restituer le moindre vers. Mais ma mémoire a conservé l'essentiel, l'extraordinaire énergie de cette extase, la fécondité d'un cerveau qui tourne à plein régime et qui convoque toute la nature, y compris la sienne. À 15 ans, il y a une ardeur de l'intelligence qu'il importe d'attraper. Comme certaines comètes, elle ne repassera plus. Au retour des vacances, j'essayais de raconter à des camarades du lycée ce qui m'était arrivé. Personne ne m'écouta. Cela ne m'étonna pas. Je n'intéressais pas. Je n'avais jamais intéressé. Je n'étais pas une personnalité charismatique. Je m'en voulais d'en souffrir. Qu'est-ce que cela pouvait me faire ? J'aurais dû me douter qu'un séjour intime en compagnie d'Homère ne risquait pas d'émouvoir une poignée de lycéens. Aussi, pourquoi voulais-je les impressionner ? À l'adolescence se pose la question cruciale du rayonnement. Sera-t-on dans la lumière ou dans l'obscurité ? J'aurais aimé pouvoir choisir. Je ne le pouvais pas. Quelque chose que je ne parvenais pas à analyser me condamnait à l'ombre. Et celle-ci n'eût pu me plaire que si je l'avais élue. Par ailleurs, j'étais comme les autres. J'aimais les personnalités charismatiques. Quand Fred Warnus ou Steve Caravan parlaient, j'étais sous le charme. J'aurais été incapable d'expliquer leur séduction, mais je la subissais avec enthousiasme. Je savais que ce mystère me dépassait. En Europe occidentale, nous n'avons pas vécu de guerre depuis longtemps. Les générations en temps de paix prolongée ont d'autres manières d'accuser les moissons de la grande faucheuse. Chaque année,
On ajoute d'innombrables noms à la stèle des victimes que la médiocrité a eues. Il convient de leur laisser le bénéfice du doute. Elles ne se sont pas dérobées au combat, ce ne sont pas des déserteurs, certaines même, à 15 ans, étaient des dieux vivants. Le terme ne dépasse pas ma pensée. Quand un adolescent monte au front, il offre le plus éblouissant des spectacles. Warnus et Caavan crépitaient d'une sorte de feu sacré. À 18 ans, Warnus a été fauché. Il est entré à l'université et, du jour au lendemain, le brillant esprit a rabâché les slogans éculés de tel ou tel professeur. Caravan a tenu plus longtemps. Parti à la Nouvelle-Orléans pour se former auprès des meilleurs musiciens de blues, il promettait. Je l'avais entendu jouer. J'en avais eu la chair de poule. Vers l'âge de 30 ans, je l'ai croisé au supermarché. Son caddie regorgeait de bière. Il m'a dit sans honte que le blues, il en avait jusque-là, et qu'il n'était pas mécontent d'avoir été rattrapé par le principe de réalité. Je n'ai pas osé lui demander si c'était ainsi qu'il appelait les packs de bière. La médiocrité n'emprunte pas forcément la voie socio-professionnelle pour l'emporter. Ses victoires sont souvent beaucoup plus intimes. Si j'ai choisi d'évoquer deux garçons qui, à 15 ans, tutoyaient la divinité, la grande faucheuse ne s'en prend pas qu'à l'élite. Sans le savoir ou le sachant, nous sommes tous envoyés au combat et il y a tant de manières d'y être vaincus. La liste des victimes n'est précisée nulle part. On ne sait jamais avec certitude qui y est inscrit. On ignore même si son propre nom y figure. Pour autant, on ne peut douter de l'existence de ce front. À 40 ans, les survivants sont si peu nombreux que l'on est hanté par un sentiment tragique. À 40 ans, on est forcément en deuil. Je ne pense pas que la médiocrité m'ait eu. J'ai toujours réussi à maintenir une vigilance de ce côté-là, grâce à quelques signaux d'alarme. Le plus efficace d'entre eux est le suivant. Aussi longtemps qu'on ne se réjouit pas de la chute de quelqu'un, c'est qu'on peut encore se regarder dans la glace. Se délecter de la médiocrité d'autrui reste le comble de la médiocrité. Je conserve une vaste capacité à souffrir de la déliquescence de ceux que je connais. Dernièrement, j'ai revu Laura, qui fut une excellente amie lors de mes études universitaires. Je lui demandais des nouvelles de Violette, qui était la beauté de notre année. Elle me répondit en jubilant qu'elle avait pris 30 kilos et plus de rides que la fée Carabosse. Sa joie me fit froid dans le dos. Elle acheva de me désoler en se scandalisant de mon regret concernant la carrière de Steve Caravan. « Pourquoi le juges-tu ? » « Je ne le juge pas. Je suis seulement désolé qu'il ait arrêté la musique, il avait tellement de talent. Ce n'est pas en se prenant pour un génie qu'on paie les factures. » Il y avait plus laid que cette phrase. C'était l'aigreur que ce propos suintait. Alors pour toi, Steve, c'était quelqu'un qui se prenait pour un génie? Tu n'as jamais imaginé qu'il pouvait l'être? Il avait un petit talent, comme chacun d'entre nous. Cela ne servait à rien de continuer. Supporter le discours des bien-pensants n'est déjà pas facile, mais cela devient intolérable quand on découvre l'ampleur de la haine dissimulée derrière ce catéchisme.